Je vais m'attacher en fait essentiellement à vous tenter de vous décrire, vous proposer une évolution des modes de consommation des céréales et en particulier du pain, centré sur Pompéi où je travaille sur les boulangeries depuis bien trop de temps désormais, ça fait presque 10 ans. Mon but étant de voir comment s'est développée la consommation de céréales sous forme de pain, et j'ajouterais même en fait sous forme de pain levé. Entre le 1er siècle avant notre ère et 79, donc en centrant mon discours sur Pompéi, et on verra au moins à la fin que la chronologie n'est pas exactement la même que celle que l'on rencontre à Rome, ce qui n'est pas d'ailleurs forcément étonnant. Et donc mon étude sera fondée en fait sur une étude d'abord technique, l'idée étant d'utiliser l'archéologie des techniques, et donc la description parfois un petit peu pénible de chaînes opératoires, pour tenter de déterminer les modes de production du pain et, à partir de ces modes de production du pain, de voir la gamme possible de production du pain levé à Pompéi et donc, partant de là, à la fin, éventuellement, regarder la distinction sociale à travers un miroir particulièrement déformant. Avant de me lancer dans le pain et les boulangeries en elles-mêmes, je vais faire un rapide retour sur les céréales à Pompéi telles qu'elles sont attestées. Et ça permettra de répondre aux questions qui ont été évoquées après la communication de Christophe Badel sur leur forme de consommation. Malgré d'excellentes conditions de conservation à Pompéi, les céréales sont relativement peu attestées, en tout cas quand on considère les céréales découvertes, enfin, qui auraient été utilisées si le Vésuve n'était pas entré en éruption. Donc on a seulement 49 contextes de découverte, donc 49 points dans la ville dans lesquels les journaux de fouilles nous disent que des céréales ont été trouvées. Le véritable problème étant que cette donnée est quasiment inexploitable pour la bonne et simple raison que les quantités de céréales découvertes ne sont quasiment jamais mentionnées et on a des échelles qui vont de 200 grammes à 1 kilo. Une partie des collections ayant été dispersée, en particulier dans les réserves du musée archéologique de Naples, il est extrêmement difficile en fait d'exploiter véritablement tout ceci. Très rapidement, les véritables céréales qui sont attestées à Pompéi sont d'une part le blé, à la fois comme blé tendre et comme blé dur, qui était essentiellement utilisé pour la panification, en tout cas enfin le blé tendre. Pouvait également être utilisé pour des bouillies. L'orge, également utilisée en infusion en bouillie et pouvait être mélangée pour faire ces bouillies, en particulier avec des légumineuses. Le millet, qui pouvait être utilisé bouilli, mélangé parfois avec du blé pour confectionner du pain. Et enfin l'amidonier. Alors l'amidonier n'est pas strictement attesté à Pompéi, puisque là ce sont enfin, la photo d'Amidonier qui est là provient d'Herculanum, mais malgré tout, supposons que de l'Amidonier pouvait avoir été utilisé à Pompéi, et là encore, pour confectionner des pains ou des bouillies. Si, à partir de ces données, on observe la répartition, là encore, qui est une répartition en nombre d'attestations et pas en volume, donc, grosso modo, les deux images qui vont suivre sont fausses, enfin, sont pas fausses. Représente une partie de la réalité. C'est le blé qui est le plus fréquemment attesté. Cependant, cette image doit être tempérée en fait avec les légumineuses. Et quand on prend en compte le nombre d'attestations de légumineuses découvertes à Pompéi, on s'aperçoit en fait que le blé devient particulièrement minoritaire et qu'en fait ce sont les fèves qui ont été le plus souvent découvertes. Là, il faudrait réussir à comprendre si cette surreprésentation des fèves correspond véritablement ou non à la réalité, dans le sens où il n'est pas impossible que les fèves, malgré les excellentes conditions de conservation de Pompéi, que les fèves se soient beaucoup mieux conservées que les céréales. Donc, malgré tout, ceci nous donne une image extrêmement floue, probablement irréelle, de la consommation des céréales et des légumineuses à Pompéi. Mais ça permet surtout de souligner et en cela de me placer dans la suite de la communication de Christophe Badel, que là, même au premier, à la fin du premier siècle de notre ère, la consommation des céréales sous forme de pain n'est pas, et très certainement loin de là, la consommation, le mode de consommation principal. Par ailleurs, quand nous parlons, enfin quand on entend pain, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est du pain levé. Alors, effectivement, des pains levés ont été découverts à Pompéi. Il faut bien faire très attention au fait que les 81 pains carbonisés que vous avez tous vus d'une manière ou d'une autre dans une exposition, même si une grande partie d'entre eux est désormais détruite, proviennent tous d'un seul four à point. C'était une fournée qui était en phase d'achèvement au moment de l'éruption et qui a donc été ainsi complètement épargnée. Donc là encore, on ne peut pas, à travers les attestations de pain, déterminer où était consommé du pain, qui en consommait, etc., etc. Ce qui nous oblige à nous tourner vers la technique et vers, en fait, les espaces de production. Avant cela, je soulignerai une chose, c'est que cette forme, enfin que le pain non levé est attesté à Pompéi, à la fois par les vendeurs de galettes, les clibanari, et désormais par un clibanus, enfin donc un four à galettes, découvert dans une boulangerie il y a désormais 3 ans. Donc cette forme est attestée, indéniablement les Pompéiens pouvaient manger des galettes, consommaient des galettes, seulement parce que justement pour l'instant les fours n'ont pas été trouvés, il n'est pas possible du tout d'estimer la part de consommation de pain levé face à celle de pain non levé. Et je signalerai au passage que cette forme de pain non levé est certainement majoritaire et est certainement restée majoritaire, en particulier dans la moitié orientale de l'Empire. Mais il faudra attendre encore quelques années pour que nous ayons plus de données en utilisant notamment le cas de Délos. À chaque fois que désormais vous m'entendrez dire pain, il faudra considérer qu'il s'agit de pain levé produit dans un four à pain classique. Quels sont les lieux de transformation des céréales en pain levé à Pompéi? 42 fours ont été jusqu'à présent mis en évidence dans 41 locaux, c'est-à-dire qu'il y a une boulangerie qui présente 2 fours. Je parle bien de fours, là pour l'instant, et pas de boulangerie, puisque une partie de ces fours ont été découverts dans des domus, généralement associés à des établissements, à des balnéaires privés. Alors non pas, je vais y revenir, non pas que ces fours étaient utilisés pour réchauffer les thermes, mais ce sont des fours globalement plus petits, qui ont en général un diamètre largement inférieur à 2 mètres, et qui, au moment de l'éruption, avaient généralement cessé d'être utilisés. Très rapidement, voyons le cas de la maison du Ménandre, qui est une de ces maisons dans laquelle un de ces fours a été découvert. Vous voyez ici, sur la droite, ce qui reste du four tel qu'il est actuellement difficile d'accès, mais malgré tout visible. Et on voit bien, à travers l'analyse du plan, en fait, que la boulangerie, enfin plutôt le four, se situe immédiatement en dessous du balnéaire. Vous aurez probablement lu, en particulier dans la littérature pompéienne, que le four à pain servait dans ces cas-là à servir à réchauffer le balnéaire. C'est une interprétation que l'on pourrait poliment dire, juger comme discutable, pour la bonne et simple raison que le four à pain est conçu et destiné à conserver la chaleur. Et donc, évidemment, le but, enfin, il n'est pas possible, ou ce serait une perte d'énergie, de temps, de tout ce que vous voulez, de concevoir un four à pain qui permettent d'évacuer la chaleur de manière telle qu'ensuite elle puisse être réexploitée par les thermes. Donc en fait, il s'agit là juste d'un phénomène extrêmement bref d'un point de vue chronologique à Pompéi. On est pour l'essentiel, malheureusement il n'y a pas eu assez de fouilles, pour l'essentiel dans le premier siècle avant notre ère, dans de très grandes domus qui peuvent tout autant disposer d'un four à pain et d'un balnéaire privé. Et ce sont systématiquement des fours à pain qui ont cessé de fonctionner au plus tard dans la seconde moitié du premier siècle de notre ère. Les autres boulangeries qui nous sont connues sont des locaux qui apparaissent à partir, pour l'essentiel, du premier siècle de notre ère, pour ne pas dire du milieu du deuxième siècle de notre ère. Là encore, malheureusement, nous avons procédé à Pompéi à beaucoup de nettoyage, pas forcément à cette fouille. Et du coup, de ce fait, les données chronologiques sont un petit peu incertaines, en tout cas pas suffisamment nombreuses. Je n'entrerai pas dans la typologie qui vous est très rapidement présentée là, sauf pour un détail qui, à mon sens, a énormément d'importance, à savoir l'existence de boulangeries sans meule, et donc de boulangeries qui pouvaient cuire du pain, qui étaient des boulangeries commerciales, mais qui n'avaient pas de capacité à la mouture. Ce qui signifie nécessairement que d'autres boulangeries en ville ou d'autres meuneries ailleurs à l'extérieur de la ville existaient et généraient un surplus de farine. Après, malheureusement, il est extrêmement complexe de savoir si on avait encore. Enfin, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé notamment de moulins hydrauliques dans la région pompéienne, alors que, bien évidemment, enfin, si on regarde notamment le sud de la Gaule, les moulins hydrauliques sont extrêmement fréquents. Pour bien comprendre ces boulangeries commerciales, à mon sens, le plus simple reste d'analyser en détail la chaîne opératoire de production du pain telle qu'elle apparaît dans l'étude des boulangeries pompéiennes. La première phase est une phase d'humidification du grain qui, si l'on suit Pline, cela permet en fait, en humidifiant le grain avant la mouture, de faire une farine plus blanche parce qu'en fait le son craque de manière, enfin, fait des plus gros morceaux et donc est plus facilement, peut être plus facilement retiré. Pendant longtemps, voilà, cet extrait de Pline est resté un extrait de Pline perdu dans le livre 18. Et en fait, dès la fin du 19e siècle, mais c'était laissé, ça avait été passé sous silence, et du coup nous y sommes revenus. Certaines boulangeries de Pompéi présentent des aménagements qui doivent, à mon sens, être interprétés comme justement des bassins ou des systèmes, parce que parfois le Pompéien, et c'est ce que vous avez ici à l'écran, le Pompéien est un grand adepte du bricolage, donc il peut faire à peu près tout et n'importe quoi avec n'importe quoi. Donc des systèmes qui permettent d'humidifier le grain avant la mouture et donc par là d'obtenir à terme une farine plus blanche, mais avec une plus grande perte, dans le sens où il y a plus de farine qui reste coincée dans les morceaux de son. Pour l'essentiel, en tout cas dans les boulangeries commerciales, la mouture se déroule à Pompéi en utilisant l'énergie animale, c'est-à-dire qu'on parlera alors de moulin à sang, donc en fait utilisant des équidés. Je ne rentrerai pas dans le débat de savoir s'il s'agit d'ânes ou de chevaux. C'est parfois extrêmement complexe et malheureusement, les os ont souvent été déplacés quand ils ont été, enfin, quand on sait qu'ils ont été découverts, on ne peut plus les étudier. Là-dessus, je ne rentrerai dans aucun détail, si ce n'est pour signaler en passant que, bien que nous soyons dans une région éminemment volcanique, le basalte qui est généralement utilisé pour faire les meules à Pompéi est du basalte qui vient d'Orvieto, donc au nord, centaines de kilomètres au nord de Rome. Orvieto qui a, en fait, dans le courant du premier siècle de notre ère, progressivement conquis économiquement au moins tout l'Occident, enfin une grande partie de l'Occident méditerranéen, en diffusant des meules. Et donc, même dans des régions qui avaient. Qui avait possibilité d'avoir du basalte. L'élément suivant, normalement, ne devrait pas laisser de traces archéologiques. Il s'agit du blutage, c'est-à-dire en fait du tamisage de la farine pour enlever d'une part les éléments de son et éventuellement, peut-être, pour réduire un petit peu la présence de poussière de basalte dans la dite farine, car elle avait un effet particulièrement néfaste sur les dents. Cependant, à force de nettoyer les boulangeries, nous avons mis en évidence les murets que vous voyez derrière la colonne C'est la colonne qui cache le muret pour une fois. Petit muret que l'on retrouve quasiment exclusivement dans les boulangeries et quasiment systématiquement dans la salle des meules, et qui, à mon sens, mais qui pour l'instant ne saurait être interprété autrement que comme une station de blutage. Et donc, il faudrait rajouter des tables par-dessus, et à cet endroit-là, les boulangers tamisaient la farine pour en enlever le son et de manière à la raffiner. On vient de noter que ce type d'installation n'est pas présent dans toutes les boulangeries, mais il n'est pas impossible que cette absence puisse être liée à des questions de conservation. Si l'on vous parle de boulangerie romaine, à un moment forcément apparaît le pétrin mécanique romain. Le pétrin mécanique romain est cette machine. Je n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir en reconstruire une pour l'expérimenter, que l'on trouve à Pompéi, mais pas seulement. On en a retrouvé à Délos, à Ostie, enfin bon, à partir de, en Afrique du Nord. Donc, véritablement une machine qui intervient, enfin, qui apparaît exclusivement pendant la période romaine, et dès que, alors, ne demandez pas de chronologie en la matière, mais grosso modo, dès que l'Empire romain cesse d'exister, le pétrin mécanique disparaît avec lui. Avant, et il ne reviendra finalement qu'à la fin du XIXe siècle. Pendant longtemps, on a cru que, au-delà de cet appax technique, que les Romains n'utilisaient que le pétrin mécanique. En fait, la découverte, au cours d'une visite dans un restaurant romain par Andrew Wilson, d'un relief romain qui était accroché au sommet du four à pizza, a fait que nous avons désormais une attestation iconographique du pétrissage en coffre, qui est celui qui a été utilisé pendant l'essentiel, enfin, en Occident en tout cas, pendant l'essentiel du Moyen Âge, de la période moderne et même de la période contemporaine. Cette pratique est désormais également attestée archéologiquement avec ces très jolis trous de poteaux dans lesquels je ne peux que restituer un pétrin en coffre, et ça tombe bien, c'est une boulangerie dans laquelle il n'y avait pas de pétrin mécanique. La question que je me poserai ici, c'est de savoir si quel est l'intérêt d'avoir ou de ne pas avoir un pétrin mécanique, quel est l'intérêt de pétrir à bras ou de pétrir avec le pétrin mécanique. Quel est l'apport qualitatif, quel est l'apport quantitatif, même d'un point de vue de temps de préparation, qui aboutit, qui sort du choix de l'une ou de l'une ou l'autre de ces variantes. En l'état actuel, je suis incapable de répondre, mais je maintiens, l'expérimentation devrait bientôt nous permettre d'obtenir quelques réponses. L'étape suivante, facultative, est celle du pointage. Alors là, on voit encore le bricolage pompéien à l'œuvre, puisque ce sont des meules qui ont été remployées, de manière à installer dessus de larges jattes, enfin des jattes largement ouvertes à leur sommet, qui permettaient à la pâte, en fait, d'avoir une première levée avant qu'elle ne soit façonnée et finalement qu'elle bénéficie d'une deuxième levée. Encore, l'utilisation de ces espaces de pointage, de ces installations de pointage, n'est visible que dans 8 des 36 boulangeries commerciales. L'étape suivante consiste à façonner les pâtons. Et donc, vous avez ici la salle dans laquelle cette opération se déroulait, avec en bas à droite ce qu'il nous reste actuellement des tables de façonnage, c'est-à-dire en fait en général des pieds maçonnés ou des blocs utilisés comme tels. Et nous avons malheureusement perdu, nous ne retrouverons jamais le geste du boulanger, tel qu'on peut le voir ici sur le relief de Bologne. Et enfin, dernière étape avant la cuisson, la levée. Il n'est pas impossible que cette levée se soit déroulée en emballant les pains dans du tissu, mais là encore, les exemples sont trop peu nombreux pour pouvoir généraliser cette pratique. Et donc en fait, ce que l'on retrouve, à condition d'avoir au minimum 1,50 m d'élévation, et encore même à Ostie, c'est parfois complexe, ce sont justement ces traces d'étagères sur lesquelles les pains étaient déposés en attendant d'être cuits. J'arrive à la fin. Je ne parlerai donc pas des fours, qui sont des fours, somme toute, relativement classiques, des fours avec une coupole, et sur l'usage qu'il pouvait y avoir dans ces fours, de grignons d'olive notamment, pour faire la cuisson. Je conclurai donc très rapidement. Jusqu'à présent, je vous ai présenté la chaîne opératoire de cette manière-là, extrêmement linéaire, simple, comme si toutes les boulangeries de Pompéi avaient enfin pratiquer l'humidification du grain et ainsi de suite jusqu'à la cuisson. En fait, le tableau est beaucoup plus complexe et c'est ici qu'il devient beaucoup plus intéressant. Dans le sens où chacune des variantes facultatives, celles qui ont qui sont exprimées, enfin dessinées en tireté, peuvent représenter, à mon sens, une amélioration qualitative du pain. L'humidification fait une farine plus blanche, le blutage fait une farine également plus blanche, en tout cas perd du son. Le pétrissage manuel, le pétrissage mécanique, je ne sais pas. Le pointage, au dire des boulangers modernes, permet d'améliorer les qualités gustatives du pain, de même que la seconde levée qui n'était pas nécessairement pratiquée. À partir de cela, et là, vous resterez probablement sur votre faim, et j'en suis sincèrement désolé, il est à mon sens possible de voir une gamme complète des possibilités de pain, de production de pain levé à Pompéi. Et partant de là, de voir qu'il y avait du pain très blanc qui était produit et du pain qui était certainement peu levé, mal levé et très entier, comme on dirait désormais. À terme, bientôt, j'espère pouvoir produire une cartographie des boulangeries pompéiennes en fonction en 79, ce qui sera déjà une belle gageure, et ensuite de voir, justement, en jonglant avec ces différents éléments techniques et la présence ou non de ces différents éléments techniques, les différentes natures de pain qui étaient produites. Je conclurai définitivement, car j'ai largement dépassé, avec cette fresque que malheureusement, qui est malheureusement souvent présentée comme une scène de vente de boulangerie. Quiconque a déjà regardé de près, ne serait-ce que l'iconographie impériale, se rendra compte, et ou un boulanger par ailleurs, se rendra compte qu'il est extrêmement rare qu'un boulanger s'assoie sur son propre comptoir pour vendre du pain. Nous retrouvons donc, en fait, comme cela avait déjà été dit par Fiorelli à la fin du XIXe siècle, dans une scène de distribution de pain dans le cadre d'une campagne électorale qui constitue la parfaite, bien que ce ne soit pas Caius Iulius Polybius qui soit représenté ici, qui est donc la parfaite illustration de cette affiche électorale soulignant que Iulius Polybius doit être élu comme édile parce qu'il donne du bon pain. Le pain, donc, en 79, ou plutôt dans le troisième quart du premier siècle de notre ère, à Pompéi, pouvait encore être utilisé comme argument électoral. Ce qui montre bien qu'en fait, entre le premier avant, où le pain levé était l'apanage exclusif des élites, et la troisième quart du premier siècle de notre ère, il y a eu une forme de démocratisation de la consommation du pain levé dans cette petite ville de campagne. Cependant, c'est un processus qui était, à mon sens, clairement inachevé, ne serait-ce que parce que justement il était encore un argument électoral, et puis parce qu'il n'était certainement, il n'est certainement jamais devenu la forme principale de consommation du pain dans l'Empire romain. Je vous remercie.